Alors, on a Éric Goujon qui est en ligne, double greffé, rein pancréas. Il est aussi porte-parole pour le don d'organes depuis un peu plus de 10 ans. Merci, Éric Goujon, d'avoir accepté notre invitation.
Ça fait plaisir. Bonjour, Justine.
Alors, on va parler toute la semaine, évidemment, du don d'organes et de tissus, l'importance du don d'organes, l'importance d'en parler à notre famille. Et le dossier qui est aussi revenu là, dans l'actualité au cours des derniers jours avec la Nouvelle-Écosse, notamment, qui a adopté le consentement présumé. Et si je ne m'abuse, c'est un peu votre combat actuellement aussi au Québec, là.
Oui, c'est ce qu'on désirait. Là, on est plusieurs à vouloir ce consentement présumé au Québec là, qui améliorerait, c'est sûr, le don d'organes au Québec. Là. Présentement, il y a 805 Québécois, Québécoises là, en attente de don d'organes au 31 décembre 2018.
Donc, c'est beaucoup de gens. Si on pouvait comparer la situation actuelle et si, par exemple, on avait le consentement présumé, ce serait quoi la différence?
Ben, quand que, en tout cas, si on parle des autres pays, tu sais, c'est arrivé en Europe, en Asie, ça a augmenté considérablement le don d'organes là, dans chaque pays qui ont adopté ce consentement présumé. Si on veut mettre un peu les gens à l'écoute en contexte, dans le fond, le consentement présumé, c'est que toute personne majeure est capable de faire un choix conscient pour le don d'organes deviendrait automatiquement un donneur potentiel lors d'un décès. Que, par contre, si la personne désire ne pas donner ses organes, peu importe la raison, bien, s'inscrit à un registre de refus. Ça a été adopté comme ça, là, comme on disait tantôt, là, en Asie, en Espagne, en Europe, puis le taux d'organes de personnes transplantées a augmenté.
Donc, vraiment, ça a fait ses preuves, selon vous, ailleurs à l'international?
Oui, puis je dirais au Québec, ça ferait ses preuves, c'est sûr, parce que si on parle un peu de chiffres, on dit qu'un Québécois sur deux est en faveur du don d'organes, mais seulement une personne sur neuf là, a mentionné son intérêt de vouloir sauver des vies à son décès. Fait qu'on a quand même un bon bout de chemin à faire. Là. On est loin dans la liste. Là.
La loi, présentement, elle est étudiée un peu ce qui se fait ailleurs par la nouvelle ministre de la Santé, Danielle McCann. Est-ce que vous avez des informations là-dessus, à savoir est-ce qu'elle est sérieuse dans ses démarches? Est-ce que vraiment il y a des discussions qui se font avec différents organismes comme Transplant Québec, par exemple?
Je connais pas la position de Transplant Québec sur ce changement de loi-là. C'est sûr, moi, c'est un peu mon combat là, depuis 2011. Là, on a eu plusieurs pétitions, là, dont la dernière qui est en 2014, qui avait 22 450 noms là, de mémoire avec l'ancien gouvernement qui a été rejeté tout simplement. On espérait, bien sûr, avec le gouvernement de la CAQ, qu'on ait plus d'ouverture. Je pense que j'ai lu la même chose que vous là, dans les journaux, comme quoi que oui, la ministre McCann est quand même ouverte à étudier le projet. C'est sûr, ça nous rassure, puis ça rassure sûrement les gens qui sont présentement en attente de greffe.
Où ça bloque, finalement? Est-ce que c'est vraiment dans la population, c'est-à-dire les gens méconnaissent peut-être ce que c'est réellement le don d'organes, méconnaissent l'impact que ça pourrait avoir, où on a de la difficulté peut-être à se projeter, on ne veut pas trop y penser si jamais on décède tragiquement, parce qu'on va se le dire, souvent c'est dans cette situation-là qu'on va donner nos organes. Selon vous, c'est quoi?
C'est sûr, côté population, je pense que les gens sont quand même bien informés maintenant là, du don d'organes, que ça sauve. Bon, on peut dire qu'une personne donneur peut sauver jusqu'à 8 vies puis redonner la santé à 20 autres personnes. Ou ce que je dirais qu'il y a un manque, c'est beaucoup la volonté politique, qu'on peut dire. Tu sais, l'investissement dans les hôpitaux, là, à ce qu'il y ait plus d'infirmières de liaison en région, le transport. Tu sais, si je donne un exemple, là, les personnes qui font le transport d'organes, c'est des policiers qui sont bénévoles. Fait que, tu sais, on a quand même un bon bout de chemin à faire. Tu sais, oui, il y a un gros débat social qu'on peut dire là, à faire au Québec, mais la population est quand même ouverte aux dons d'organes puis à vouloir sauver des vies. C'est considérable. Tu sais, puis je pense qu'il y a on peut se pencher sur la question là, d'améliorer les choses au Québec.
Donc, il y aurait vraiment à revoir toute la structure organisationnelle du don d'organes. C'est-à-dire qu'actuellement, est-ce que pour vous, comme porte-parole pour cette cause-là, est-ce que vous vous croyez qu'on est, c'est-à-dire à vraiment bien organisé au Québec pour le faire, même si on réside à Mont-Laurier, ou est-ce que vraiment c'est bien organisé actuellement?
Je dirais que en général, non, parce que c'est quand même une grosse logistique, le don d'organes. Je vous donne un exemple, si on a un décès à Mont-Laurier, faut que le décès soit constaté par deux médecins légistes qui sont pas en interaction avec le don d'organes, faut que ça soit une mort cérébrale. Ensuite, faut rapatrier le corps dans les grands centres où ce qu'ils font les prélèvements. Là. On parle de Sacré-Cœur ou du CHUM à Montréal. Fait que oui, la structure est lourde comme c'est là, puis la logistique fait en sorte que c'est sûr qu'on perd des donneurs potentiels, soit en région ou même peut-être dans les grandes villes. Puis je peux rajouter que c'est une personne qui décède sur 100 là, qui peut être un donneur potentiel dans les centres hospitaliers. Fait que c'est pas beaucoup. Fait que si on peut attraper cette personne-là, puis sauver 8 vies, bien, on est gagnant.
Donc, ça veut dire qu'on en perd à cause qu'on est trop loin des grands centres, par exemple, ou il y a quelque chose qui a manqué dans la chaîne, si on veut, d'intervention?
Effectivement, on perd on sauve pas de personnes parce qu'on est trop loin. Par contre, là, je m'avance un peu, là, mais je crois que si on est sur une liste prioritaire de greffe, c'est sûr qu'en étant sur une liste d'attente, c'est comme moi, j'ai attendu 4 ans. Quand que la santé de la personne ou commence à être critique, on peut être sur plus prioritaire qu'un autre, si on veut. Là. Fait que là, si on est une personne en attente prioritaire puis qu'il y a un décès, je donne un exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien là, on peut déplacer les hélicoptères et ces choses-là pour sauver cette vie-là, mais c'est encore compliqué. J'ai déjà vu des personnes être obligées d'aller attendre, des Québécois être obligés d'aller attendre à Toronto là, pour être plus près des grands centres là, parce que la vie de cette personne-là est en jeu.
C'est ça. Parlez-nous justement de votre histoire double greffée. Qu'est-ce que vous aviez avant d'être greffée? Vous aviez des problèmes clairement de santé. Parlez-nous de l'avant et de l'après.
Bien, le avant, moi, c'est le diabète de naissance qui a été découvert un peu sur le tard. J'avais 10 ans. Donc, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé l'insuline et tout. Bon, j'ai 43 ans. Fait qu'à l'époque, l'insuline et les glucomètres, c'était pas comme ça l'est aujourd'hui. C'était pas la même technologie, puis les mêmes insulines qui étaient aussi performantes qu'aujourd'hui. Donc, le diabète a fait un peu ses dommages, comme on connaît un peu le diabète. Ça peut attaquer le système nerveux, les yeux et tout. Moi, ça allait attaquer les reins. J'avais 28 ans. Donc, à 28 ans, les reins ont cessé de fonctionner complètement. Je demeurais à Mont-Laurier à l'époque. Il a fallu que je déménage à Saint-Jérôme parce qu'il n'y avait pas de centre d'hémodialyse à Mont-Laurier. Fait que je suis déménagé à Saint-Jérôme. J'ai fait un 4 ans d'hémodialyse en attente de greffe. La dernière année, on m'a annoncé que si j'étais pas greffé d'un rein et d'un pancréas, il me restait environ 9 mois à vivre. Donc, j'étais pas encore sur la liste prioritaire, mais c'était proche. On m'avait enlevé un petit peu de la liste d'attente parce que j'étais trop mince à l'époque. J'aurais pas survécu à la chirurgie. Donc, il a fallu que je prenne un petit peu de poids pour revenir sur la liste d'attente. Puis, finalement, ben, c'est un 7 décembre, j'ai été appelé 7 décembre 2008 pour la double greffe.
Et pourquoi, Éric Goujon, vous avez décidé de dire, ben moi, à partir de ce moment-là, ma vie a changé, puis je veux devenir le porte-parole et essayer de faire avancer la cause. Pourquoi?
Après la greffe, dans le fond, j'ai recommencé à travailler assez rapidement, je dirais. Là, ça a été quand même, quand on dit que la greffe, ça marche, là, ça marche très bien. J'ai recommencé à travailler temps plein, tout ça. Puis, je suis revenu dans ma région, là, à Mont-Laurier, puis à Rivière-Rouge. Puis, je me suis rendu compte que dans les CLSC, il n'y avait pas d'autocollants pour les cartes d'assurance maladie. Il n'y avait pas de publicité, il n'y avait rien. Je voyais rien sur don d'organes dans ma région. Puis quand je parlais à des collègues de travail, « Ah oui, il faut faire ça, faut signer le permis, faut signer la carte. » Fait que je trouvais qu'il y avait un gros manque d'informations. Puis si je regardais un peu sur les réseaux sociaux, tout ça, je trouvais rien. Fait que j'ai commencé, j'ai créé une page Facebook, dans le fond, qui est « Don d'organes et tissus Québec ». Puis j'ai commencé à voir à constater, dans le fond, qu'il manquait beaucoup d'informations. Fait que c'est un peu là que j'ai commencé à devenir porte-parole bénévole par moi-même.
C'est ça. Et là, depuis, les gens vous posent des questions. C'est quoi qui revient le plus souvent sur les réseaux sociaux ou même vos collègues, vos amis? C'est quoi qui revient souvent comme le questionnement là-dessus?
Bien, le gros questionnement, c'est « Ah, ben moi, ils vont rien prendre, je suis trop vieux, je suis trop magané. » Là, c'est là qu'un peu, faut expliquer que oui, tu sais, on peut donner, même si on est plus vieux. Tu sais, le plus vieux donneur, je pense qu'il avait 88 ans. Fait que c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de santé, c'est pas parce qu'on fume qu'on peut pas être donneur. Tu sais, oui, il y a beaucoup d'informations qui manquent. Puis la grosse peur que j'entends des fois, puis celle-là, je la trouve drôle, c'est comme, ils vont-tu me découper en morceaux? Puis je vais-tu pouvoir être exposé? Fait que là, tu sais, j'explique que non, tu sais, dans le fond, c'est pareil comme si on fait une chirurgie, tu sais. Les chirurgiens font vraiment attention. Puis je dirais même, quand on est un donneur d'organes, j'ai vu des émissions de TV, tout ça, puis des reportages, la personne qui donne est comme considérée comme un héros, là, tu sais. Puis il y a même une minute de silence qui est faite avant les chirurgies, là, de la personne défunte. Fait que oui, on peut être exposé, on peut avoir... le corps est quand même remis à la famille, là. Puis cette personne-là est considérée comme un héros, une héroïne, c'est sûr.
Les gens, peut-être, n'en ont pas parlé encore à leur famille, leur façon de voir ça. Est-ce qu'ils veulent donner, justement? Est-ce qu'ils ont signé leur carte? Oui, mais l'importance d'en parler à cette famille. Est-ce que en cette semaine nationale du don d'organes, c'est le moment d'aborder ça avec nos proches?
Ben oui, c'est sûr que pendant la semaine thématique, c'est toujours, on va en avoir beaucoup dans les médias, peu importe partout, puis c'est le fun parce qu'on a une semaine complète pour en parler, mais c'est d'en parler à nos proches, puis à notre famille, puis de dire que même si la carte est signée, puis que je suis inscrit au registre, ben si jamais les médecins vous posent la question, est-ce que la personne voulait vraiment donner ses organes, c'est de dire à la famille, si vous faites poser la question, ben dites oui, c'est mon souhait à moi, c'est de sauver des vies à mon décès, parce que on s'entend-tu que quand on est décédé, qu'on ait un rein en moins ou en plus, si on se fait incinérer, ça ne sert pas à grand-chose.
Est-ce que il y a une autre façon que juste signer à l'arrière de notre carte là, pour vraiment donner notre consentement? Est-ce qu'il y a une couche de plus? On parlait entre autres du registre des donneurs. Ça fonctionne toujours, ça, en 2019?
Oui. Ça, on le reçoit avec notre renouvellement d'assurance, de carte d'assurance maladie. C'est le registre du don d'organes. En fond, on s'inscrit au registre. Puis lorsque une personne décède, les autorités dans les hôpitaux ont l'obligation d'aller vérifier le registre. Là, c'est en lien avec Transplant Québec. Il y a, c'est sûr, signer l'endo de la carte. Les autocollants sont disponibles dans les CLSC ou en ligne là, ou sur ma page Facebook. Là, il y a souvent le lien qui est là. Sinon, on peut aussi notarier notre don d'organe. On peut l'inscrire avec le notaire, là, comme quoi que oui, on veut sauver des vies. Mais le plus important, ça reste toujours d'en parler à nos proches puis de sensibiliser notre famille à ça. Parce que malgré toutes ces étapes-là, les médecins peuvent quand même demander à la famille est-ce que, exemple, M. Goujon voulait sauver des vies. La famille peut quand même refuser, malgré tout. Fait que là, ça ne respectera pas mes dernières volontés, malheureusement. C'est un peu pour ça le débat là, de changer la loi, comme quoi que toute personne pourrait être donneur là, sans c'est respecter les dernières volontés, dans le fond. Là.
De la personne, c'est ça. Et donc, ben la oui. Famille n'aurait plus son mot à dire, c'est-à-dire que tout le monde serait un peu un donneur potentiel, à moins d'avis contraire clairement inscrit. Là.
Effectivement, c'est un peu ce qu'on souhaite. Quand on fait nos préarrangements, on demande d'être incinéré ou exposé, bien, les proches respectent cette dernière volonté-là. Bien, on aimerait que ce soit la même chose pour le don d'organes.
Vous en croisez beaucoup, évidemment, dans le cadre du fait que vous êtes porte-parole, bénévole pour le don d'organes. On le sait malheureusement qu'il y a des gens qui, à cause des délais qui sont si longs, certaines personnes qui décèdent, est-ce qu'on sait combien de personnes n'ont pas pu recevoir le fameux coup de fil?
Bien, juste l'année passée, on a 28 personnes qui sont décédées. Moi, je dirais là, depuis 2011 que je suis sur les réseaux sociaux beaucoup là, avec ma page Facebook. Puis j'ai vu des amis décédés malheureusement dans l'attente. Là, fait que c'est pas des beaux chiffres, malheureusement, mais c'est des chiffres réels.
Est-ce que vous avez confiance en la ministre, justement, qu'elle va pouvoir peut-être étudier le dossier, étudier la question, puis voir à peut-être faire changer les choses au Québec, malgré le fait qu'on est, je crois, au Québec, à ce que nous avait dit déjà auparavant le directeur général de Transplant Québec, Louis Beaulieu. Je crois qu'on est quand même un leader à l'échelle canadienne, le Québec, en ce qui est trop don d'organes.
Oui, c'est quand même, on a quand même des beaux chiffres. Cette année aussi, c'est quand même on parle de 497 là, personnes greffées là, en 2018. C'est quand même un beau record. Mais faut, tu sais, moi, j'ai toujours, tu sais, je vais toujours garder en tête les 28 personnes décédées puis ces familles-là aujourd'hui qui vivent avec ça, tu sais. Puis j'aurais pu être une de ces personnes là, qui serait pas là aujourd'hui à vous parler. Fait que pour moi, tu sais, une personne qui décède sur la liste d'attente, c'est une personne de trop quand on peut changer les choses puis améliorer les choses. Je pense qu'on est rendu là, puis oui, j'ai confiance à la ministre McCain qu'elle va se pencher sur le dossier, puis que pour moi, une personne décédée, comme je disais, c'est une personne de trop, puis on parle ici de sauver des vies, ça devrait être prioritaire au Québec.
Ça, c'est sûr et certain, avec aussi la population qui va, qui est de plus en plus vieillissante, les gens aussi, on a l'impression que les qui sont de plus en plus malades, ça va avec. Donc, la demande va aller en grandissant aussi, là.
Oui, oui, effectivement, la demande va aller en grandissant. On sait que la grosse demande, c'est le rein, dans le fond, là, les personnes en insuffisance rénale. Puis on le voit juste dans les centres hospitaliers, là, toutes les personnes qui sont en hémodialyse, là, les centres d'hémodialyse, là, grandissent à vue d'œil. Fait que oui, on a un besoin urgent d'organes au Québec.
Est-ce que vous pourriez vous allier en terminant avec, je ne sais pas, d'autres personnes qui pourraient se joindre à la cause pour vous aider? Est-ce que vous êtes appuyé par des professionnels de la santé qui pourraient aussi être à vos côtés? Est-ce qu'il y a d'autres personnes vraiment marquantes actuellement au Québec qui militent d'une certaine façon pour la cause du don d'organes?
Ben, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui milite pour la cause, malheureusement. On est un petit groupe, là. Moi, je connais une couple de personnes greffées que j'ai connues, bon, en attente, puis qui sont maintenant greffées, qui, tu sais, veut pas quand on a passé par la liste d'attente, puis, tu sais, presque mort. On veut comme que les choses changent, puis on veut pas que d'autres personnes vivent la même chose que nous. Fait que oui, on a un petit groupe. Côté gouvernemental, je dirais qu'on n'a pas beaucoup d'écoute. C'est tout se fait bénévolement. Moi, j'ai certains avocats là, qui m'ont dit qu'ils m'aideraient dans cette cause si jamais on redépose une autre pétition, des choses comme ça, mais c'est un petit groupe, effectivement. On n'est pas beaucoup.
C'est ça. Puis la pétition, bien là, il y en a eu deux. Ça n'a pas changé grand-chose, entre guillemets. Donc, vous n'irez pas dans cette voie-là, là, de ce que je comprends.
Bien, pas pour l'instant. On va comme laisser aller la ministre McCain, là. Oui, elle a pris conscience là, du projet de loi Nouvelle-Écosse. Ça, pour nous, ça nous a comme un peu rassurés parce que c'est quand même au pays. C'est pas quelque chose, on parle pas en Europe ou en Asie. C'est vraiment au pays. Fait que ça, on se dit peut-être que Québec est rendu là. Puis moi, je le vois beaucoup là, à travers ma page Facebook, que dès que je mets quelque chose qui se passe dans un autre pays ou quelque chose qui change comme ça en améliorant nos organes, bien, les gens sont prêts à passer à cette option-là, puis à faire le débat s'il faut.
Tout à fait. Éric Goujon, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Vraiment un grand plaisir. Puis on va suivre la cause clairement avec vous, là.
Du 21 au 27 avril, c'est la semaine du don d'organes.
Merci beaucoup.